Livre des nombres. Étude sur le chapitre 32. Le fait rapporté dans ce chapitre a donné lieu à de grandes discussions. Des opinions très diverses ont été émises sur la conduite des deux tribus ennemies. Avait-elle raison ou tort de choisir leur héritage sur la rive du Jourdain attenant au désert? Leur conduite en cette affaire était-elle l'expression de la puissance ou de la faiblesse? Comment arriverons-nous à un jugement sain dans cette affaire? En premier lieu, où était la portion proprement dite d'Israël, son héritage divinement ordonné? Sûrement de l'autre côté du Jourdain, dans la terre de Canaan. Eh bien, ce fait n'aurait-il pas dû suffire? Un cœur sincère, un cœur qui aurait pensé, senti et jugé avec Dieu, aurait-il pu nourrir l'idée de choisir une portion autre que celle que Dieu avait assignée et accordée? Impossible. Nous n'avons donc pas besoin d'aller plus loin pour avoir une appréciation divine sur ce sujet. C'était une faute et un manque de foi de la part de Ruben et de Gad et de la demi-tribu de Manassé que de choisir une limite en deçà du Jourdain. Leur conduite était gouvernée par des considérations personnelles et mondaines, par la vue de leurs yeux, par des motifs charnels. Ils contemplèrent le pays de Jazer et le pays de Galaad et ils l'apprécièrent entièrement selon leurs propres intérêts, mais sans aucun égard au jugement et à la volonté de Dieu. S'ils avaient simplement regardé à Dieu, la question de s'établir en deçà des rives du Jourdain n'aurait jamais été soulevée. Lorsque nous ne sommes pas simples et sincères, nous entrons dans des circonstances qui soulèvent toutes sortes de questions. Il est très important d'être rendu capable, par la grâce divine, de suivre une ligne de conduite et de fouler un sentier si peu équivoque qu'aucun doute ne puisse se produire. C'est notre saint et heureux privilège de nous comporter de façon qu'aucune complication ne puisse surgir. Le secret pour agir de la sorte, c'est de marcher avec Dieu et d'avoir ainsi notre conduite absolument réglée par sa parole. Ruben et Gad n'étaient pas ainsi conduits, cela est manifeste par l'histoire entière. C'étaient des hommes au cœur partagé, aux principes mélangés, des hommes qui cherchaient leurs propres intérêts et non les choses de Dieu. Si ces dernières avaient rempli leur cœur, rien n'aurait pu les induire à prendre leur position hors des vraies limites. Il est évident que Moïse n'avait aucune sympathie pour leurs propositions. Le jugement de l'Éternel ne lui permettait pas de traverser le Jourdain, quoique son cœur fût dans la terre promise. Comment donc aurait-il pu approuver la conduite d'hommes réellement désireux de s'établir ailleurs? La foi ne peut jamais être satisfaite de ce qui n'est pas la vraie position et la vraie portion du peuple de Dieu. Un œil simple ne peut voir, un cœur fidèle ne peut désirer autre chose que l'héritage donné par Dieu. Voilà pourquoi Moïse condamna sur le champ la proposition de Ruben et de Gad. Il est vrai qu'ensuite il atténua son jugement et donna son consentement. Leur promesse de traverser le Jourdain tout armé devant leurs frères obtint de Moïse une sorte d'assentiment. Il semblait que ce fût une manifestation extraordinaire de désintéressement et d'énergie que de laisser derrière soi tous les leurs et de ne traverser le Jourdain que pour combattre en faveur de leurs frères. Mais où avait-il laissé les leurs? Il les avait laissés en dehors des bornes marquées par Dieu. Il les avait privés d'une place et d'une part dans le véritable pays de la promesse. Cet héritage dont Dieu avait parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et pourquoi? Rien que pour avoir une bonne pâture pour leur bétail. C'est pour un pareil motif que les deux tribus et demi abandonnent leur place dans les vraies limites de l'Israël de Dieu. Et maintenant, voyons quelles furent les conséquences de cette limite de conduite. Au chapitre 22 de Josué, nous avons le premier triste effet de la conduite équivoque de Ruben et de Gad. Ils sont obligés de bâtir un autel, autel de grande apparence, de peur qu'à l'avenir, leurs frères ne les désavouent. Qu'est-ce que tout cela prouve? Qu'ils eurent grandement tort de s'établir en deçà du Jourdain. Et remarquez l'effet produit sur toute l'assemblée par cet autel. Au premier moment, il semble que ce soit une véritable rébellion. Et les fils d'Israël l'ayant appris, toute l'assemblée des fils d'Israël se réunit à Silo pour monter en bataille contre eux. Les fils d'Israël envoyèrent vers les fils de Ruben et vers les fils de Gad et vers la demi-tribu de Manassé comme si les deux tribus et demie étaient réellement détachées de la maison d'Israël, ils envoyèrent au pays de Galaad Siné, fils d'Éléazar le sacrificateur, et avec lui 10 princes, un prince par maison de père de toutes les tribus d'Israël. Et chacun d'eux était chef de maison de père des milliers d'Israël. Et ils vinrent vers les fils de Ruben et vers les fils de Gad et vers la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad et leur parlèrent, disant, « Ainsi dit toute l'assemblée de l'Éternel. » Les deux tribus ennemies n'en faisaient-elles pas partie? Quel est ce crime que vous avez commis contre le Dieu d'Israël, vous détournant aujourd'hui de l'Éternel en vous bâtissant un autel, vous rebellant aujourd'hui contre l'Éternel? Est-ce peu de chose que l'iniquité de Théor dont nous ne sommes pas purifiés jusqu'à aujourd'hui, quoiqu'il y ait eu une plaie sur l'assemblée de l'Éternel, et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel? Or, il arrivera, si vous vous rebellez aujourd'hui contre l'Éternel, que demain il sera courroucé contre toute l'assemblée d'Israël. Si toutefois le pays de votre possession est impur, passez dans le pays qui est la possession de l'Éternel, où est le tabernacle de l'Éternel. Quelle parole solennelle! Et ayez votre possession au milieu de nous, mais ne vous rebellez pas contre l'Éternel, ne vous rebellez pas contre nous, en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Versets 12 à 19. Or, toute cette grave mésintelligence, tout ce trouble et toute cette alarme étaient le résultat de la faute de Ruben et de Gad. Il est vrai qu'ils peuvent s'expliquer et satisfaire leurs frères au sujet de l'autel, mais il n'y aurait eu aucune alarme s'ils n'avaient pas pris une position équivoque. Là était la source de tout le mal. Il est important de saisir ce point avec clarté et d'en déduire la grande leçon pratique qu'il doit nous enseigner. Toute personne réfléchie et spirituelle qui examine attentivement tous les côtés de cette affaire ne peut guère mettre en doute que les deux tribus et demi n'eurent tort de s'arrêter avant d'arriver au Jourdain et d'y établir leur demeure. Si d'autres preuves étaient nécessaires, elles seraient fournies par le fait que ces tribus furent les premières qui tombèrent entre les mains de l'ennemi. 1 Roi 22, verset 3. Cette portion de l'histoire d'Israël nous avertit bien solennellement de veiller constamment à ne pas rester en dessous de notre position propre en nous contentant des choses qui appartiennent à ce monde, mais d'y prendre la position spirituelle et vraie de mort et de résurrection figurée par le Jourdain. Un renvoi. Sans doute il y a beaucoup de chrétiens sincères qui ne voient pas l'appel céleste de l'Église, qui ne saisissent pas le caractère particulier de la vérité enseignée dans l'Épître aux Éphésiens, et qui sont néanmoins, en proportion de leur lumière, zélés, dévoués et vrais de cœur. Mais nous sommes persuadés que de telles personnes perdent une immense bénédiction pour leurs âmes et restent bien en dessous du vrai témoignage chrétien. Je reprends. Tel est, croyons-nous, l'enseignement de cette portion-ci du livre. C'est un grand point d'être entièrement décidé et non partagé de cœur en nous déclarant pour Christ. Ceux qui professent être chrétiens tout en reniant leur appel et leur caractère céleste, ou en agissant comme s'ils étaient citoyens de ce monde, font un tort considérable à la cause de Dieu et au témoignage de Christ. Ils deviennent des instruments dont Satan s'est tiré parti. Un chrétien indécis, partagé, est plus inconséquent qu'un monde insincère ou un véritable incrédule. L'inconséquence des professions est de beaucoup plus préjudiciable à la cause de Dieu que toutes les formes réunies de la dépravation morale. Ceci peut paraître une assertion hasardée, mais elle n'est que trop vraie. Les chrétiens professants qui sont simplement habitants de la frontière, les hommes de principes mêlés, les personnes d'une conduite douteuse, sont ceux qui font le plus de tort à la cause bénie et qui favorisent le plus les desseins de l'ennemi de Christ. Des hommes d'un cœur intègre, de sincères et courageux témoins de Jésus-Christ, chez lesquels tout démontre qu'ils cherchent une meilleure patrie, des hommes zélés, étrangers au monde, voilà ce qu'exige la crise dans laquelle nous nous trouvons. Bien-aimés lecteurs chrétiens, prenons garde à ces choses. Jugeons-nous loyalement comme étant dans la présence même de Dieu et jetons loin de nous tout ce qui tente à empêcher notre complet dévouement de cœur, d'âme et de corps à celui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Puissions-nous, pour nous servir du langage de Josué 22, nous conduire de telle façon qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir un autel de grand aspect pour montrer à quel pays nous appartenons, où nous adorons, à qui nous sommes et qui nous servons. Alors tout autour de nous sera clair et incontestable. Notre témoignage sera distinct et le son de notre trompette clair et ferme. Notre paix aussi coulera comme un fleuve tranquille et toute la direction de notre marche et de notre caractère contribuera à la louange de celui dont le nom est réclamé sur nous. Que le Dieu de bonté ramène le cœur de son peuple dans ces jours d'odieuse indifférence, de tiédeur et de profession légère, à un renoncement plus complet, à une vraie consécration à la cause de Christ et à une foi inébranlable dans le Dieu vivant.